Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous allons continuer à voir l'œuvre de Dieu dans les anges, parce que cela va nous aider à mieux comprendre la nature de la vie chrétienne. Nous avons en effet en commun avec les anges d'être des créatures que Dieu a destinées à le voir face à face et à entrer dans la sainte société du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dimanche dernier, dans le sermon, je vous ai fait une synthèse sur les anges destinés à voir Dieu et sur l'action des anges, et je vous ai montré comment ils sont nos modèles. Donc dimanche dernier, nous avons vu les anges comme modèles de vie chrétienne. Mais là, il faut voir à travers les anges ce que Dieu fait et comment nous répondons à la grâce de Dieu. J'ai pensé que le meilleur résumé était celui de saint Thomas d'Aquin, et je suis persuadé que les questions qu'il pose sont exactement celles que vous vous posez, mes bien chers frères, car les anges sont assez mystérieux, la connaissance des anges est assez mystérieuse, et beaucoup de bons chrétiens ont sur les anges une notion un peu vague et aimeraient en savoir un peu plus. Premier chapitre, si l'on peut dire, de saint Thomas sur ce sujet, l'élévation des anges à la grâce et à la gloire, c'est-à-dire les bons anges. Comment les bons anges ont-ils été élevés par Dieu à entrer dans la sainte société du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Première question de saint Thomas, les anges ont-ils été créés bienheureux? Il est important de répondre à cette question. Parce que très facilement, on a une image, mais une image sensible. On se dit, les anges ont été créés au ciel, le ciel c'est voir Dieu, donc les anges ont été créés en présence de Dieu, de toute façon ils sont des purs esprits, donc ils sont créés en présence de Dieu. Quand on est en présence de Dieu, on voit Dieu, donc si on voit Dieu, on est bien heureux, comme les saints voient Dieu, ils sont bien heureux. Et puis, il y en a qui ont refusé cela et qui sont devenus les démons. Alors non, ça ne peut pas être comme ça. Et l'intérêt de répondre à cette question, c'est justement de mieux nous faire comprendre, d'une part, la grandeur de Dieu, d'autre part, ce qu'est la créature. La grandeur de Dieu, il n'y a que Dieu à qui il soit naturel de se voir. Et Dieu se contemple, c'est sa définition d'ailleurs, il se contemple soi-même. Toutes les créatures, il n'aurait pas naturel de voir Dieu. Il faut que ce soit un don de Dieu, un don surajouté à leur nature. Et donc, non, les anges n'ont pas été créés bienheureux, c'est-à-dire que les anges, lorsqu'ils furent créés, Dieu les a créés avec une connaissance naturelle. Cette connaissance naturelle, ce sont des lumières que Dieu leur a données, des lumières, une connaissance, qu'il leur a donnée sur lui, bien entendu, bien sûr, parce que tout ce qu'on connaît est un dérivé de la sagesse de Dieu. Mais il leur a donné les lumières qui conviennent à des intelligences créées, c'est-à-dire des lumières qui ne vont pas jusqu'à percer le mystère, jusqu'à entrer dans le mystère. Donc les anges savaient bien, ils n'avaient pas besoin, contrairement à nous, d'étudier pour le savoir, ils n'avaient pas besoin de réfléchir pour le savoir. Ça c'est tout le processus de la connaissance angélique, je ne vous l'étudierai pas parce que c'est trop complexe. Leur connaissance est immédiate, mais leur connaissance est limitée. Et elle est limitée aux choses qu'on peut connaître par la nature, c'est-à-dire par l'intelligence. L'intelligence remonte des effets à la cause, l'intelligence voit certaines lumières, mais qui lui sont proportionnées. Elle ne peut pas voir d'emblée ce que Dieu est en lui-même. Cependant, Dieu voulait se révéler à eux. Et pour ça, il faut un secours, Ce secours s'appelle la grâce, et c'est la deuxième question de saint Thomas. Les anges avaient-ils besoin de la grâce pour se tourner vers Dieu? Et la réponse est oui. Une créature ne peut pas parvenir seule à ce qui est divin. Il lui faut le secours de Dieu, qu'on appelle la grâce. Et si je vous donne la réponse à cette question, c'est parce que cela vous fait une petite révision sur ce qu'est la grâce, une petite révision sur le fait que l'homme doit recevoir la grâce pour pouvoir être chrétien. Et c'est très important à notre époque, où les ennemis de Dieu ont complètement faussé la notion de créature, la notion de Dieu. Alors on ne sait plus très bien où on en est, et du coup, on n'apprécie pas les dons de Dieu à leur juste valeur. On risque facilement de glisser dans des erreurs, et même des erreurs graves, telles qu'on les voit aujourd'hui. Donc ce n'est pas parce que les anges sont des créatures purement spirituelles, sans corps donc, qu'ils n'ont pas besoin de la grâce de Dieu pour voir Dieu face à face. Troisième question de saint Thomas, Dieu a-t-il donné la grâce aux anges aussitôt qu'il les a créés, ou bien a-t-il attendu pour leur donner la grâce plus tard? Ça, là-dessus, Dieu était libre de faire comme il voulait. Ce sont des dons de Dieu, et Dieu n'est pas tenu de donner ses dons immédiatement. On peut savoir cela que par la révélation. Or, la révélation est assez obscure là-dessus, et nous sommes assez dans l'incertitude. Mais les pères de l'Église sont plutôt d'avis que oui, Dieu donna la grâce aux anges dès leur création, comme il donna d'ailleurs la grâce à Adam et Ève dès la création. Et c'est justement la raison. Puisque Dieu donna la grâce à Adam et Ève dès la création, il serait étonnant que Dieu ait fait attendre les anges alors qu'il n'a pas fait attendre les hommes. Quatrième question, les anges ont-ils mérité leur béatitude? Là, c'est la question du mérite, c'est-à-dire que la grâce donne de pouvoir s'attacher à Dieu, encore faut-il le faire, encore faut-il poser l'acte. Parce que si l'acte était automatique, c'est-à-dire que du moment qu'on a la grâce, on aurait immédiatement l'amour de Dieu et la vision de Dieu, ça voudrait dire que la grâce ne serait plus la grâce, ça voudrait dire que la vision de Dieu est donnée avec la nature, et à ce moment-là, on retombe dans l'erreur qu'on a dénoncée en début. Non, seul Dieu jouit de Dieu par nature, toutes les créatures reçoivent Dieu comme un don. Et ce don, elles doivent l'accepter. Si elles l'acceptent, on appelle ça le mérite. Et si elles le refusent, bien c'est le péché. Parce que le mérite, voyez, n'est pas dans la difficulté. Par exemple, pour qu'un pianiste mérite le premier prix, il lui faut un long et pénible travail. Si le pianiste est très doué, le travail sera moins long et moins pénible. Mais pour qu'un enfant mérite l'héritage de son père, il n'a pas besoin de faire longuement la preuve par des travaux difficiles qu'il mérite de recevoir l'héritage. Il suffit qu'il reconnaisse son père comme son père, qu'il lui dise « Mon père, vous êtes bon ». Et quand le père voit la bonté du fils, on suppose évidemment qu'il n'y a pas de triche, qu'il n'y a pas d'hypocrisie, bien entendu, mais avec Dieu, il ne peut pas y avoir d'hypocrisie, il sait tout, il voit tout, donc on ne peut pas tricher. Donc si l'enfant dit à son père, le reconnaît comme père sincèrement, et reconnaît sincèrement qu'il lui doit tout et que son père est bon, son père va lui donner l'héritage, au moins, en tout cas, lui donner le mérite de l'héritage, c'est-à-dire qu'il recevra l'héritage à la mort du père. Donc le mérite n'est pas le fruit de la difficulté. Ce qui est donné par le mérite, c'est le fruit de la fidélité. Or, vous comprenez bien que lorsqu'il s'agit d'un héritage humain, il y a une partie de l'héritage, la partie matérielle, les bâtiments, les maisons, que sais-je. On attend la mort du père pour en jouir, encore que on habite dans la maison de famille, même du vivant du père. Par contre, l'héritage spirituel, Le père n'attend pas sa mort pour la donner, il le donne au contraire dès le début, il fait participer son fils à toute sa science, à toute sa sagesse. Et voilà pourquoi les anges, contrairement aux hommes, reçoivent la récompense de leur mérite immédiatement, c'est-à-dire dès qu'ils font un acte de fidélité à Dieu, Dieu leur ouvre, on dit la porte du ciel, évidemment ce n'est pas la porte du ciel, parce que c'est une image, et je vous ai dit que cette image n'était pas bonne. Et non, il les fait entrer dans son sein. Face à face, ils entrent dans le secret de la Sainte Trinité. Remarquez que nous, lorsque nous faisons un acte de mérite, un acte de charité, d'amour de Dieu, qui est un acte méritoire, un simple acte de charité est un acte méritoire, et nous mérite le ciel, nous recevons immédiatement une connaissance voilée, mais réelle, par la foi, et immédiatement la charité. Il faudra attendre que nous soyons sortis de notre corps et dégagés des conditions corporelles de notre vie pour voir Dieu face à face. Malgré tout, nous pouvons dire que, dès ici-bas, nous avons l'essentiel de l'héritage. Question 6, je passe. Question 7. Après l'entrée dans la gloire, les anges reçoivent-ils une nouvelle connaissance, en plus de celle dont je vous ai parlé, qu'ils avaient reçue avec la création? Et la réponse, bien sûr, est oui. C'est-à-dire que les anges voyaient Dieu, on pourrait dire, un peu de loin, comme toute créature, de plus près que nous, bien sûr, mais j'allais dire dans le même champ, c'est-à-dire, ils voyaient Dieu de l'extérieur. Ils n'entraient pas dans l'intérieur de Dieu. Par contre, dès qu'il pose l'acte de charité, de fidélité, par la grâce, et qu'ils méritent de Dieu par leur fidélité, à ce moment-là, ils entrent dans un nouveau domaine, qui est le domaine propre à Dieu, et qui est le domaine dans lequel nous entrons, nous, de façon voilée par la foi, et de façon dévoilée totalement, quand nous devenons bienheureux au ciel. Et c'est pour ça que les démons, qui sont pourtant si intelligents, sont en même temps si bêtes. C'est qu'ils n'ont pas cette connaissance intime de Dieu que les anges fidèles ont. Les démons ont entendu parler, comme nous, de la Sainte Trinité, parce qu'ils savent lire le catéchisme, mais ils ne le comprennent pas. Un enfant comprend ce qu'est la Sainte Trinité. Quand il a la grâce, et il pénètre, et il entre par la charité. Tandis que le démon, il a bien entendu parler de la Sainte Trinité, mais il ne voit pas la Sainte Trinité, il n'en jouit pas, ça ne lui apporte pas cette richesse que ça apporte au bon chrétien. Sous ce rapport, le démon est inférieur au bon chrétien. Il est aveuglé, il est aveugle. Alors quand on dit que le péché de l'ange, du mauvais ange, ça a été de refuser l'incarnation du Fils de Dieu et que c'était ça son péché d'orgueil, c'est pas vrai. Je ne sais pas d'où ça vient, peut-être que c'est un grand saint qui l'a dit, et voilà. Bon, mais en tout cas, ça n'est pas conforme à saint Thomas. Les anges ne pouvaient pas refuser l'incarnation, parce qu'on dit que quand ils ont appris que le Verbe de Dieu se ferait homme, ils ont refusé de se soumettre à un homme, même s'il était Dieu, et que c'est là que Dieu les a punis, parce qu'ils refusaient l'œuvre si sage que lui, Dieu, avait prévue. Et ça, c'est facile pour faire du catéchisme, parce que tout le monde comprend, mais ce n'est pas vrai. Parce que comment voulez-vous qu'ils connaissent le mystère de Dieu puisqu'ils n'avaient pas la foi? Ils ne pouvaient pas avoir la vision de Dieu. Ils étaient loin de Dieu. Ils ne pouvaient pas connaître le mystère de Dieu. Plus tard, quand Dieu fera connaître aux hommes son dessein, son secret, la volonté de les sauver par l'incarnation, les anges, comme je vous le disais, seront capables d'entendre le message, ils seront capables de lire le livre du catéchisme, mais ils ne le comprendront pas. Là où un enfant du catéchisme, là où un enfant qui fait sa première communion comprend ce qui se passe, le démon, lui, ne peut pas comprendre. Une fois que les anges sont bienheureux, c'est-à-dire qu'ils voient Dieu face à face, peuvent-ils pécher? Question 8 de saint Thomas. Bien sûr que non. Parce que lorsqu'un verre est plein de vin, il n'y a aucune raison de vouloir ajouter autre chose, parce que pour ajouter autre chose, il faudrait vider le vin. quand une âme est pleine de Dieu, elle ne peut pas désirer autre chose, parce que pour désirer autre chose, il faudrait se séparer de Dieu. Or, elle a vu que Dieu était bon, donc elle ne va pas se séparer de ce qui est bon. Donc, quelqu'un qui est face à Dieu ne peut pas pécher. Les anges ont pu pécher tant qu'ils n'étaient pas face à Dieu. Et nous, les hommes, nous pouvons pécher parce que tant que nous sommes dans les conditions charnelles, corporelles de notre vie, le verre n'est pas plein. Hein. Dans notre vie, la perfection n'est pas encore acquise. Alors nous pouvons la chercher à droite et à gauche. Et maintenant, nous passons à l'étude des anges mauvais. Première question de saint Thomas sur l'étude des anges mauvais. Les anges peuvent-ils commettre une faute? Et la réponse est oui, parce que toute créature peut défaillir. De même que le ciseau peut dévier du mouvement que la main lui imprime pour tailler le bois. Si un artisan taillait avec son esprit, vous supposez qu'il suffit que l'artisan voit ce qu'il veut sur la pièce de bois et qu'il le réalise simplement en la regardant. Ben c'est sûr que toutes les pièces de bois seraient conformes à ce qu'a voulu l'artisan. Hein. Il n'y aurait pas de raté. Mais voilà, il faut passer de l'esprit à la main et de la main au ciseau. Et à chaque fois, il peut y avoir un raté. La main peut être malhabile et le ciseau peut être mal aiguisé, mal taillé, que sais-je. C'est un grand mystère, là. Et là, il faut s'arrêter parce que Dieu aurait-il pu empêcher la défaillance? Oui, il aurait pu l'empêcher. Mais pourtant, il ne l'a pas voulu. Nous avons étudié ça avec le mal. Le péché est un grand mystère. Le refus de la grâce de Dieu est un grand mystère. Et ce qui est intéressant lorsque nous méditons sur le péché de l'ange, c'est que nous voyons justement la gravité de ce mystère. La gravité du péché. Quelle sorte de péché l'ange pouvait-il faire? C'est intéressant parce que nous verrons avec le péché originel, dans l'étude du péché originel, que le premier péché de l'homme, le péché d'Adam et Ève, ne pouvait être, comme celui des anges, qu'un péché d'orgueil. De même, le premier acte conscient d'un homme, quand il arrive à l'âge de raison, ne peut être que un acte d'humilité, par lequel il adhère à Dieu, ou un péché d'orgueil. Après ça, l'homme, étant donné ses conditions de vie corporelles, je vous l'ai dit, peut faire d'autres péchés qui ne sont pas des péchés d'orgueil. Et comme l'ange, lui, n'a pas de corps, le seul péché qu'il puisse faire est un péché de l'esprit. Et le seul péché qui puisse être dans l'esprit, c'est de vouloir être plus que ce qu'on est. L'homme qui voudrait voler comme un oiseau, oui, ça serait de l'orgueil. Alors, comment l'ange peut-il vouloir plus que ce qu'il est? Il peut vouloir acquérir la béatitude éternelle par ses propres forces, ou bien dire à Dieu ce que je sais de vous par ma nature qui est si parfaite, ça me suffit, je n'ai pas besoin du reste. C'est une indépendance, pas une indépendance absolue, parce qu'aucune créature peut dire à Dieu je ne dépends pas de vous, parce qu'elle sait très bien qu'elle disparaîtrait. Ce péché d'orgueil, qui est une jalousie de Dieu, entraîne justement un péché d'envie. Péché d'envie, c'est-à-dire que l'orgueilleux, lorsqu'il voit une perfection que lui ne possède pas, il estime qu'il n'est pas le meilleur, puisqu'il y a une autre perfection que lui n'a pas. Et il veut être le meilleur. Et donc il va soit chercher à détruire la perfection chez autrui pour être enfin le meilleur, soit il va chercher à voler à l'autre la perfection qui lui manque, soit il va en vouloir à l'autre d'être meilleur que lui. Il va se mettre en colère contre l'autre d'être meilleur que lui. Eh bien, les démons sont en colère contre Dieu parce qu'ils n'arrivent pas à lui enlever la perfection que Dieu possède et pour cause. Et envers les hommes, ils sont plus qu'en colère. Ils vont essayer de détruire la perfection des hommes qui sont les amis de Dieu, c'est-à-dire la sainteté. Ils ne peuvent pas la lui prendre, parce que même s'ils lui prenaient, ça voudrait dire qu'ils deviendraient eux-mêmes amis de Dieu. Or, ils refusent d'être amis de Dieu. Leur orgueil leur refuse, à cause de leur orgueil, ils refusent d'entrer dans l'amour de Dieu. Alors il ne reste plus qu'à détruire la sainteté chez les saints, et c'est leur manière de détruire, d'atteindre Dieu, vous voyez, puisqu'ils ne peuvent pas détruire Dieu en lui-même, mais ils le détruisent dans ses œuvres. Nous arrivons directement à la question 8 de saint Thomas sur les démons. Le péché du premier ange a-t-il causé le péché des autres anges? La réponse est oui, par une suggestion. Alors, par une suggestion automatique, vous voyez. C'est-à-dire que le premier ange, le Lucifer, le plus parfait, quand il s'est révolté, s'est retourné vers tous les autres anges et il leur a dit « Révoltez-vous avec moi. Regardez, c'est possible, faites comme moi. » À ce moment-là, vous avez Lucifer qui a dit « Tu n'as pas honte, qui est comme Dieu ?» et qui a repoussé cette suggestion du démon. Et vous avez les mauvais anges qui ont dit « Ah oui, bonne idée, tu as raison, nous nous révoltons avec toi. » Et dernière question de saint Thomas, question numéro 9. « Y a-t-il autant d'anges tombés que d'anges restés fidèles ?» Et saint Thomas dit « Non, il y a beaucoup plus d'anges fidèles que d'anges tombés, parce que sinon ça veut dire que Dieu fait mal son œuvre. » Vous voyez, « Y a-t-il des maisons qui s'écroulent ?» Oui. Mais la plupart des maisons tiennent debout, parce que sinon ça voudrait dire que l'architecte n'est pas capable de faire une maison. Y a-t-il des abeilles trop faibles pour faire du miel? Oui, mais en petit nombre, parce que Dieu, quand il fait des abeilles, bien, il les fait bien. Alors il y a beaucoup de démons en enfer. L'Écriture sainte parle d'un tiers des étoiles qui sont tombées du ciel, donc un tiers qui seraient des démons, mais il y en a beaucoup plus qui sont restés fidèles à Dieu. Pour les hommes, alors là, c'est le grand mystère. Y a-t-il plus d'hommes damnés que d'hommes sauvés? Mais la question ne se pose pas pour les hommes comme pour les anges à cause du péché originel. Mais ça, c'est une autre affaire. Voilà, ce sermon était un peu catéchétique, mais vous en avez besoin, mes bien chers frères. Et puis prenez le sermon précédent qui lui est au contraire beaucoup plus synthétique, et avec les deux on a vraiment de quoi entrer dans le mystère de Dieu, approfondir le mystère de Dieu, remercier Dieu d'avoir été si bon pour nous. Notre-Dame, Reine des anges, priez pour nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.